Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Décryptage, votre émission de Cato Bell sur RCF. Aujourd'hui, je suis entourée de Gilles Necart, porte-parole de Caritas Belgique, et Christophe Renders, chargé d'analyse et d'animation au centre pour le Centre Avec. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Bonjour Armelle, bonjour à tous.
Bonjour à toutes et tous, bonjour Armelle.
Alors, au sommaire de cette émission, le premier sujet qui sera mis sur la table, c'est la montée de l'extrême droite. Encore, mais chez nous, cette fois nous en avions déjà parlé en ce qui concerne l'Europe, allons-nous vers un nouveau dimanche noir ? C'est la question du dossier de la revue en question publié par le Centre Avec et c'est aussi la question que nous nous poserons. Et puis pour notre second sujet, nous irons en République démocratique du Congo, dans l'est du pays où une crise fait rage. Et puis en dernière partie de l'émission, nous retrouverons vos zooms. Alors dites-nous, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Il sera question d'une boîte à outils un peu spéciale.
D'accord, une boîte à outils.
Et pour moi, nous allons parler de politique du bien commun.
D'accord, c'est un beau programme. On revient là-dessus. Donc, en dernière partie d'émission, et nous retrouverons juste après Pierre Granier, qui nous présentera le journal dimanche de la semaine. On ne répétera jamais assez, l'extrême droite remonte partout en Europe et chez nous aussi. On l'a déjà vu en 2019 avec ce que nous avons appelé une marée brune et le Vlaams Belang qui a pris 23 sièges au Parlement fédéral au lieu de 3 aux élections précédentes. Mais avant cela, en 1991, je n'étais pas née, c'est un dimanche noir que notre pays a connu quand le Vlaams Blok, l'ancêtre si je puis dire du Vlaams Belang, a pris 12 sièges au lieu de 2 précédemment. Depuis 1991, les partis politiques démocratiques opposent un cordon sanitaire par rapport à l'extrême droite. Ce cordon sanitaire, et d'ailleurs le cordon médiatique non plus, ne s'applique pas à l'extrême gauche. Est-ce que cela veut dire que les deux extrêmes ne se valent pas ?
Bonne question. C'est vrai que on a souvent tendance à les mettre dans le même panier, extrême droite, extrême gauche. Il y a peut-être certains points communs, on pourrait peut-être dire que certains voient dans l'extrême gauche, mais il est encore à voir aussi de quel type de parti il s'agit, une forme de populisme, c'est-à-dire de s'appuyer aussi sur le désarroi de la population, sur la colère du peuple, pour faire des propositions qui sont souvent des propositions anti-système. Maintenant, de mon point de vue en tout cas, l'extrême droite vient avec une proposition politique qui est une proposition fondamentalement inégalitaire. C'est-à-dire de dire que tout le monde, toutes les personnes dans notre pays ne doivent pas avoir les mêmes droits. Hein, en France, ils parlent de préférence nationale, hein, le Rassemblement national parle de préférence nationale. On ne veut pas... alors évidemment, il y a des droits qui sont réservés aux Belges de nationalité, comme les droits de pouvoir participer aux élections législatives. Mais pour tout ce qui concerne une grande quantité de libertés civiles, donc qui sont les libertés fondamentales, et en ce qui concerne les droits économiques et sociaux, en principe, tous les citoyens, quelle que soit leur origine, doivent avoir accès aux mêmes droits. Or, l'extrême droite remet ça en cause. Et l'extrême droite joue sur la différence entre un « nous » qui est constitué, « nous », et un « eux » qui ne sont pas les mêmes que nous et qui n'ont pas, ni ne doivent pas avoir les mêmes accès que nous. L'extrême gauche, de son côté, elle, à partir de la colère du peuple, elle va plutôt aller dans un sens de proposition pour rétablir l'égalité. En tout cas, c'est son objectif, c'est d'essayer de rétablir l'égalité entre des classes sociales qui sont divisées. Si vous voulez, le prisme de l'extrême gauche va plutôt s'appuyer sur une dimension socio-économique, tandis que le prisme de l'extrême droite, c'est sur une dimension nationaliste, on pourrait dire, qu'elle s'appuie.
Gilles.
Et pourtant, elles se rejoignent d'une certaine mesure, ces deux extrêmes. Elles se rejoignent, à mon sens, dans la manière où elles canalisent toutes les deux un vote qu'on a tendance à qualifier de contestataire, en sens où c'est un exutoire, sans doute, pour des personnes. Il y a le prisme identitaire, le prisme nationaliste dont Christophe vient de parler. Je pense que c'est difficile aussi de distinguer complètement le prisme socio-économique. Économique, on sent que c'est aussi des votes sans doute refuge ou un vote un peu diffus où on finit par taper dans ces cases-là plutôt plutôt que dans d'autres, un petit peu par dépit. Et là où elles se rejoignent aussi, c'est peut-être là où elles sont le plus préoccupantes, et ça rejoint aussi l'idée de Christophe, c'est qu'elles savent finalement les mécanismes démocratiques qui ont permis leur avènement. Donc le système démocratique libère la parole et libère les mouvements politiques, et parfois ce système finit par alimenter des éléments qui pourraient lui nuire en termes de respect des droits fondamentaux, ou simplement des mécanismes qui sont en place pour faire en sorte que les pouvoirs, la distribution des pouvoirs soient répartis équitablement et dans le respect du droit. Donc oui, elles inquiètent.
Alors, on vient de faire la différence entre extrême droite et extrême gauche. Christophe, vous voulez ajouter quelque chose encore ?
Oui, j'entends bien ce que dit Gilles. En même temps, aujourd'hui, dans les partis d'extrême gauche, j'entends moins un discours de haine contre les autres. Alors, il y a des paroles dures, par exemple, sur les capitalistes ou sur la grande bourgeoisie, etc.
Le refus des élites.
Le refus des élites aussi. Mais j'ai l'impression, alors effectivement on a l'idée de l'extrême gauche et les concrétisations qu'on a eues de régimes d'extrême gauche principalement dans l'Union soviétique ou dans des régimes comme celui de Cuba, etc., n'ont pas été merveilleuses en termes démocratiques. Est-ce que pour autant des propositions d'extrême gauche aujourd'hui auraient ces dérives antidémocratiques? Voilà, c'est à voir dans le concret. Tandis que j'ai l'impression que le socle des démocraties telles que l'état de droit, telles que la protection des minorités, sont des valeurs contre lesquelles lutte l'extrême droite ou les propositions d'extrême droite.
Les dérives des deux extrêmes, on les a déjà vues dans l'histoire, notamment donc avec l'Union soviétique et en Allemagne, pour l'extrême droite également. Et aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de populisme. Christophe, vous l'avez mentionné déjà. Est-ce que c'est la même chose que l'extrême droite, le populisme? Est-ce qu'on peut considérer que c'est la même chose ou c'est deux choses complètement séparées?
Pour moi, ce n'est pas exactement la même chose, non. Souvent, l'extrême droite va avoir une dimension populiste, quoique je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais j'ai entendu récemment sur une radio concurrente une émission sur l'histoire du populisme et sur le fait qu'au départ, le populisme était un mouvement qui était plutôt un mouvement d'émancipation sociale aussi. Alors aujourd'hui, on entend dans le langage médiatique le populisme comme une pensée ou un discours qui critique les élites, qui va contre le système, qui va contre l'ordre établi, si on veut. Mais cela peut être aussi bien l'apanage, effectivement, de mouvements d'extrême gauche, voire même aujourd'hui, je dirais, il y a même des leaders politiques qui pourraient être tout à fait centristes a priori ou qui se vendent comme tels, mais qui s'appuient sur des ressorts populistes pour pouvoir faire des propositions, pour aller chercher parfois les plus bas instincts aussi de notre cœur à nous, hein, de notre cœur à nous comme citoyens. Donc pour moi, non, ce n'est pas la même chose, le populisme et l'extrême droite, même si l'extrême droite s'appuie et en général a souvent des ressorts de discours populistes, oui.
Vous êtes d'accord ?
D'accord, oui. Les sirènes des solutions faciles, hein, la politique du slogan, réduire le monde dans lequel on vit est complexe et c'est difficile à admettre. Et donc, quand on refuse la nuance et quand on simplifie à outrance, on finit aussi par prendre des raccourcis qui sont dommageables. Et en soi, c'est là sans doute qu'une partie de l'extrême droite et que les mouvements plus populistes peuvent se tomber d'accord.
Alors, l'extrême droite, on en parle en Belgique, beaucoup en Flandre, et on sait donc que le Vlaams Belang monte, mais elle est aussi présente en Wallonie, même si elle est beaucoup plus faible, beaucoup moins forte. Pourquoi, selon vous, justement, elle est moins forte en Wallonie, et, enfin, en tout cas du côté francophone du pays ?
Je crois que l'important, c'est sans doute de distinguer l'opinion et la canalisation, la structuration politique du mouvement. Et je crois que pour ça, il faut, c'est déjà une manière, je pense, de se positionner positivement par rapport à ces glissements qui sont quand même très préoccupants. C'est d'essayer de regarder un petit peu les chiffres, de regarder un petit peu de quoi on parle. Ben, souvent, les sondages peuvent aider à ça. Donc, l'idée de tordre un petit peu le cou à certaines idées toutes faites dans des débats récents. Voilà, chez Caritas, on parle parle beaucoup de migration. Ben voilà, dire que toute la Flandre est raciste, qu'un tiers des Flamands est d'extrême droite, c'est sans doute prendre un raccourci dans lequel on ferait bien de ne pas tomber. Quand on regarde, par exemple, l'attitude du Flamand moyen, si on peut le réduire à ça par rapport à la migration, on se rend compte que trois quarts des Flamands ont un avis assez neutre par rapport à la migration. Ils sont pas spécialement pour, ils se sont pas tellement spécialement contre. Ben, comme dans le débat qu'on est en train d'avoir, il y a des extrêmes de part et d'autre, des vrais tenants de la cause migratoire et des vrais opposants à la chose, mais il y a surtout un ventre mou au milieu qui est cette espèce de corps électoral auquel on doit pouvoir continuer à parler, et que c'est sur ce terrain-là que ça va jouer l'élection du mois de juin prochain. Il faudrait aussi éviter de tomber dans le piège en disant le Flamand, le Wallon ou le Belge francophone n'a pas de parti d'extrême droite et n'est donc pas raciste ou une attitude forcément positive par rapport à l'immigration.
Il y a un parti d'extrême droite, il est juste beaucoup, beaucoup moins fort.
Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On a eu des mouvements d'extrême droite, le Parti Nation, l'extrême droite francophone a déjà eu des représentants dans différentes assemblées. Aujourd'hui, on a la chance que ce n'est pas le cas. Mais comme le disait Gilles, ça ne veut pas dire que nous, les francophones, sommes indemnes de pensées d'extrême droite ou de discours d'extrême droite et que, voilà, il y a, comme le dit un article de la revue en question, peut-être que l'offre de l'extrême droite aujourd'hui est mauvaise en francophonie parce que l'extrême droite n'arrive pas à s'organiser, mais voilà, Manuel Abramovitch, qui est le rédacteur en chef de la revue Résistance, dit qu'il y a une demande d'extrême droite qui est aussi présente. Alors pourquoi est-ce qu'en Wallonie ça n'arrive pas à s'organiser ou en tout cas la proposition partisane d'un parti d'extrême droite n'arrive pas à émerger? Il y a probablement dû des faits aux dissensions internes. Ils n'ont pas encore trouvé non plus une figure qui permette aussi de... Enfin, l'extrême droite ne s'est pas trouvé une figure peut-être plus raisonnable, plus vendable en tant que telle pour pouvoir représenter cette mouvance. Deuxièmement, on cite souvent aussi quand même le cordon sanitaire, pas politique, parce que celui-là jusqu'à présent, mais il faudra voir s'il tiendra, est respecté par tous les partis dits démocratiques en Belgique jusqu'à présent. Mais le cordon sanitaire a volé en éclats très rapidement en Flandre, tandis que dans les médias francophones, ce cordon sanitaire médiatique continue à être présent. Et puis, il y a aussi une sorte je dirais, il y a une fibre nationaliste beaucoup plus forte chez les Flamands. Hein, on le voit, le premier parti de Flandre jusqu'à aujourd'hui, hors sondage, c'est la N-VA, qui est un parti nationaliste. Et ce nationalisme est évidemment partagé par le Vlaams Belang. Et il y a un mouvement nationaliste qui peut s'expliquer par l'histoire de la Flandre aussi, enfin, qui a des racines historiques que l'on peut comprendre. Renforce peut-être le vote pour l'extrême droite. En tout cas, il y a des propositions nationalistes en Flandre depuis très longtemps. En Belgique, en Wallonie, pardon, ça a été ce mouvement nationaliste a toujours été très faible, ou un mouvement régionaliste ou nationaliste a toujours été très faible. Par contre, on a aussi beaucoup de... Bon, je travaille par exemple pour l'éducation permanente dans la communauté, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française de Belgique. Il faut savoir que par exemple... Donc, et l'éducation permanente, c'est un mouvement, un tissu d'associations qui vise à sensibiliser la population aux questions de société, à les faire réfléchir dessus et à pouvoir leur permettre de s'engager aussi politiquement. Ça a permis de rencontrer parfois des colères cachées dans la population, de pouvoir les accompagner, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est à l'origine. Ce mouvement d'éducation permanente, il a été balayé complètement, il n'existe pas en Flandre. Donc la Flandre ne subventionne pas non plus des associations comme les nôtres. C'était pas nécessairement pour faire la publicité, mais je pense que j'ai la faiblesse de croire en tout cas que ça a un impact sur davantage de conscientisation, y compris dans des associations qui sont en lien avec des milieux très populaires, sur les dangers de l'extrême droite et d'essayer avec eux de comprendre quelle est la racine des problèmes auxquels ces personnes font face. Parce que le terreau de l'extrême droite, c'est aussi le fait de se sentir déclassé, en fait.
Alors, il y a quelques semaines, la dernière fois qu'on a parlé d'extrême droite dans cette émission, c'était avec Gaëlle Giraud, qui est aussi au Centre Avec et qui signe un article dans la revue qui vient de paraître. Et il disait que l'extrême droite, c'est la tribalisation de notre société. C'est d'ailleurs dans le titre de l'article qu'il signe. Est-ce que c'est aussi votre avis? C'est parce que notre société se retribalise, en quelque sorte, qu'on a de l'extrême droite?
Mais on voit en tout cas la montée des partis d'extrême droite est comme la signature d'une retribalisation de la société. Donc retribalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se regroupe sur des groupes d'appartenance fortes ou supposés être forts. Hein, on se regroupe sur la patrie ou sur notre civilisation, sur notre culture, sur notre village. C'est de nouveau la création d'un nous qui doit être fort, et il y a un besoin de ça, je pense, dans la population, face à un « e ». Et donc, qu'est-ce qui provoque la retribalisation aujourd'hui? C'est justement ce que je disais, c'est que les gens se sentent déclassés dans un monde où ils ont une perte de sens de ce qu'ils font, dans un monde qui est globalisé, où ils ont l'impression d'être pris dans des mouvements sur lesquels ni le politique, ni eux-mêmes n'ont aucune prise, et sur le fait d'être en perte ou en peur de manquer, peur de voir d'autres venir à sa place, peur d'être envahi. Voilà, tout ça provoque la retribalisation.
Julie, ça vous parle ce que Christophe nous explique?
Ça me parle et ça nous permet aussi de retomber sur le parallèle qui a déjà été établi avec les mécaniques enfin bien connues du populisme, hein. C'est toujours plus facile d'identifier un ennemi commun, de réduire une menace à un individu un petit peu lointain, de mettre des frontières littéralement entre les personnes. C'est parfois, pour aller dans le même registre, c'est toujours plus simple d'organiser la chasse aux chômeurs que d'organiser la justice fiscale et d'aller chercher des moyens pour faire fonctionner la société dans les paradis fiscaux plutôt que dans les poches des plus démunis. Donc voilà, c'est toujours plus facile de nommer le camp d'en face que d'aller chercher la complexité, encore une fois, et d'aller d'élaborer des solutions qui demandent de l'audace, du courage politique et de la vision. Et donc soyons osons la complexité, osons la nuance. Je pense que dans ce débat, si comme dans de nombreux débats, c'est bien qu'on ait l'occasion ici sur une antenne comme celle-ci et dans les mois qui vont venir avec les débats politiques d'aller un petit peu plus en profondeur, on l'espère.
Oui, et je pense que ça nous oblige aussi, ou ça oblige les politiques à travailler sur les causes aussi des inégalités, hein, puisque la retribalisation, elle vient d'un sentiment que je suis délaissé ou que je suis pas dans l'élite de la société, et donc il y a à travailler à la fois, je pourrais dire idéologiquement, mais surtout concrètement, sur des politiques qui soient vraiment égalitaires, sur des politiques qui mettent des limites aux problèmes suscités par la mondialisation, par exemple, des politiques qui redonnent du sens aussi aux gens, d'avoir une direction. On est dans un monde quand même où on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse avec les guerres, avec le dérèglement climatique, voilà. Et quel est le sens? Vers où on va? Et là, je pense que c'est notre travail à tous, et évidemment le travail des politiques aussi.
Alors, dernière question pour cette première partie d'émission. Et nouveau, je vais me baser sur un des articles de la revue en question sur le sujet. Il y a beaucoup de candidats d'extrême droite qui utilisent le christianisme à des fins identitaires, notamment en France, par exemple. Et donc, je repose la question de l'article signé par Paul Colara et Guillaume Donnet. J'espère que
De Zonnet.
De Zonnet, voilà.
Paul Colara et Guillaume Donnet.
Voilà, j'ai mal noté les noms, désolé. Et donc, la religion chrétienne n'est-elle qu'une culture à défendre, une identité à protéger?
Bon, moi je crois qu'effectivement, heureusement, en Belgique, j'ai l'impression que c'est peu le cas. Il faut dire que le christianisme est un petit peu en perte de vitesse, et donc même les partis qui étaient traditionnellement chrétiens dans leur nom, enfin en Finlande c'est peut-être un petit peu différent, on a le CDNV aussi où le mot chrétien est toujours présent, mais on voit bien que l'ancien PSC qui était devenu CDH est maintenant devenu Les Engagés, et sans renier l'héritage, je dirais, philosophique, mais ne veulent plus avoir de référence, en tout cas, au christianisme. Et l'extrême droite, certainement, en Belgique aujourd'hui, ne fait pas trop référence à cette dimension-là. Par contre, effectivement, dans d'autres pays, en Italie, avec Madame Meloni, en France, effectivement, Monsieur Zemmour et Marion Maréchal Le Pen, notamment, s'appuient beaucoup sur la notion de la France comme une civilisation chrétienne, comme une nation chrétienne, et du christianisme faisant partie intégrante aussi de la nation à protéger. Mais ce qu'ils défendent, c'est pas un christianisme de foi, c'est un christianisme de culture. Hein. Je pense pas que M. Zemmour lui-même soit chrétien. Pourtant, il défend la protection du christianisme. Et donc, on va chercher aussi un ressort qui est celui... En fait, on vole des mots. Hein. Comme l'extrême droite vole le mot de démocratie, on vole aussi le mot de christianisme pour le transformer à une sauce où on doit défendre ce christianisme contre des envahisseurs.
Gilles ?
Ben, l'Église est humaine, hein, elle est traversée par les mêmes tensions que la société. Même en Belgique, je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a cette tension entre, d'une part, cette Église d'ouverture qui ose aller à la rencontre, plutôt que cette Église peut-être un peu plus en fermeture et dont les arguments sont utilisés plutôt en défense, un petit peu en bouclier par rapport aux questions, donc, quand on parle des questions de relation à l'islam ou de la manière dont le fait chrétien est de moins en moins présent en tant que tel en politique, et qu'on sent de nouveau cette espèce de perte de repères et cette volonté d'essayer d'aller chercher un bouclier qui rassure. Donc je pense que l'intervention du cardinal ce matin ou les messages répétés du pape vont plutôt dans le sens de essayons d'utiliser ces valeurs en ce qu'elles nous rassemblent plutôt qu'en ce qu'elles nous divisent. Et je pense que c'est aussi une des seules possibles voies de sortie de ces questions-là. Il n'y a que le dialogue sincère et mesuré et vraiment la mise en présence des personnes qui va permettre, je pense, de transcender ces différences et de recréer un vivre ensemble. On a perdu des traditions, on a perdu des habitudes, il faut les recréer en étant le plus inclusif possible.
Oui, c'est très juste, hein, c'est très juste ce que tu dis, Gilles, parce que je parlais plutôt de la récupération du christianisme par les partis d'extrême droite, mais on a aussi à voir, en tant que chrétiens, est-ce que nous-mêmes, nous sommes indemnes des idées d'extrême droite aussi. Et je pense que c'est un point très intéressant de cet article aussi, c'est qu'ils disent qu'une des meilleures manières de lutter contre l'extrême droite, c'est une forme de combat spirituel. C'est aussi de prendre conscience des ressorts d'exclusion que nous vivons aussi nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes ou dans nos relations, dans nos manières de parler, dans notre manière,
pouvoir, oui.
Dans les structures de pouvoir, dans notre manière de ne pas reconnaître peut-être que parfois nous sommes dans une situation privilégiée par rapport aux autres. Tout ça, c'est une manière très concrète aussi de lutter contre l'extrême droite aujourd'hui.
Voilà, je vais vous proposer de faire une petite pause en musique, mais avant, il faut encore que je vous dise que tous les abonnés du journal Dimanche recevront la revue en question sur le sujet donc de l'extrême droite et de ce dimanche noir avec le journal de la semaine prochaine. Et donc maintenant, petite pause en musique avec Ray Charles et Georgia on my mind, et nous nous retrouvons juste après pour parler de la situation dans l'est du Congo.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you,
a song of
comes
you.
As sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Et nous nous retrouvons pour cette seconde partie de Décryptage, votre émission de Cato Bell sur RCF. Nous allons maintenant aborder cette crise qui fait rage dans l'est de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, j'ai toujours avec moi Gilles Necart, porte-parole de Caritas Belgique, et Christophe Renders, chargé d'analyse et d'animation pour le centre. Avec... À l'est de la RDC, donc, à Goma et au Kivu, le M23, le mouvement du 23 mars, est soutenu par le gouvernement rwandais et il a pris le pouvoir depuis, et depuis des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Cela cause des problèmes de logement et d'accès à la nourriture notamment. Par endroits, il pourrait même y avoir des risques d'épidémie de choléra. C'est un joyeux programme qui attend ses déplacés visiblement. Alors Gilles Caritas est présent au Congo et dans cette région-là en particulier. Quel est le travail effectué par vos collègues ?
Caritas, c'est bien d'autres, hein, parce qu'on est devant, malheureusement, c'est le drame de cette situation, on est devant le nouvel épisode d'une saga humanitaire qui n'en finit plus de durer, dont les chiffres continuent de dépasser l'entendement. Hein. Les racines du mal, elles se situent, ça va faire maintenant 30 ans, dans la foulée du génocide rwandais, avec le déplacement d'une bonne partie de la population rwandaise, on a fini par avoir une importation du conflit et... une contamination généralisée à toute cette partie frontalière de l'est de ce grand pays. Donc on est le long du lac Kivu qui donne le nom à ces provinces. On n'est pas loin du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et donc à la frontière de ce grand pays. Et on a des dizaines de groupes armés qui se livrent à une prédation tant sur les personnes que sur les ressources naturelles de la région. On finit par ne plus savoir très bien démêler cette situation. Mais une chose est sûre, sur ces 6 derniers mois, environ 2 millions de personnes sont venues grossir le flot de personnes en déplacement dans la région. Goma, il faut imaginer que c'est une ville qui en théorie est luxuriante, etc., au bord de ce grand volcan, mais qui est depuis ce moment-là, depuis ces 30 dernières années, c'est là qu'on vient chercher la sécurité quand ça commence à refrapper dans la brousse. Et là, c'est rien que le mois de mars dernier, encore des dizaines de milliers de ménages sont venus y trouver refuge et des dizaines de personnes ont perdu la mort. Donc c'est encore une fois de plus l'occasion de tirer un signal d'alarme face à une situation humanitaire sans nom.
Et donc le travail de vos collègues, comment ils agissent pour ces personnes?
Donc on répond en tant que Caritas International Belgique à l'appel d'urgence en fait qui est lancé par les Caritas Goma, les Caritas Bukavu, on est dans le sud Kivu Mazin, et les Caritas à Beni qui sont aussi en prise non seulement avec les conséquences de ce conflit mais aussi du fait des agissements d'autres groupes armés. Ils sont en train de lancer ce qu'on appelle au sein de notre réseau un appel d'urgence qui signifie mobiliser les autres Caritas partenaires, éventuellement nos gouvernements, pour contribuer à une réponse humanitaire qui apporte des éléments concrets aux besoins des personnes. Donc les besoins des personnes, ils sont quoi? C'est avoir de l'eau propre, c'est faire en sorte qu'on a des latrines qui permettent dans les camps de réfugiés, on trouve souvent refuge dans une église, dans une école ou dans le village où on ouvre une hutte. Il faut faire en sorte que l'eau elle arrive là, que la nourriture elle arrive là. On a tout perdu souvent quand on doit quitter sa maison, quand on doit quitter son village. Donc c'est parfois quelques casseroles, quelques bâches pour faire en sorte de finalement donner aux personnes la chance d'avoir un peu de dignité, un peu de protection. Ce mot, il nous tient très fort à cœur face à un contexte qui dépasse encore une fois l'entendement.
Est-ce que cette situation dans l'est du Congo, c'est quelque chose que vous connaissez ou qui vous parle, Christophe ?
Oui, ça me touche beaucoup parce que j'ai vécu pendant 2 ans à Bukavu. C'était justement au moment, juste l'année après le génocide, c'était entre 1995 et 1997, dans les camps de réfugiés rwandais. Après cette horreur qui s'était passée au Rwanda, où plus d'un million de personnes avaient été massacrées en quelques semaines. Et c'est une région où j'ai appris à apprécier la population de cette région-là, très accueillante, d'une part, pour les réfugiés, et puis d'autre part aussi, pleine d'énergie, je dirais aussi, sur une terre qui est magnifique. Et depuis lors, je n'y suis plus retourné. Mais ce qui s'y passe me brise le cœur aussi, puisque, comme l'a rappelé Gilles, c'est sans cesse, depuis une série de conflits qui s'entremêlent les uns aux autres, et qui ont aussi des ressorts économiques derrière. Voilà, ce sont des ressorts... Je sais qu'Axel Fischer était votre invité lors de la réunion de la semaine dernière, et ça sortait de la campagne de carême de partage d'entraide et fraternité, qui disait l'impact de nos écrans si on y regardait de plus près. Et effectivement, je dirais, le malheur de cette région de l'Est du Congo, c'est d'être riche en minerais, des minerais qui attirent la convoitise et la convoitise qui génère des conflits. Je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Et la population congolaise, par exemple, a été très en colère récemment en raison d'un accord entre l'Union européenne et le Rwanda, qui a priori n'est pas un pays où ces matières premières existent, pour pouvoir assurer l'acheminement de ces minerais stratégiques, comme on dit. C'est stratégique pour nous parce que c'est stratégique pour la transition énergétique, etc. Mais au coût de quoi, souvent, on ferme les yeux là-dessus. Et je pense que c'est très, très important, notamment par rapport aux élections européennes qui arrivent, d'interpeller aussi nos responsables politiques là-dessus. Et je sais que les témoins d'entraide des fraternités l'ont fait.
Donc justement, je voulais en venir à cet accord de l'Union européenne. C'est donc un protocole d'accord avec le Rwanda. Et notre Premier ministre a signé cet accord en tant que président de la présidence tournante de l'Europe. Et comme vous l'avez dit, ça a provoqué la colère des Congolais, et dont le président Félix Tshisekedi a dit que le Rwanda pille donc les ressources minières congolaises et que l'Union européenne s'en rend complice. Est-ce que vous pensez comme lui dans ce cas-ci?
J'ai pas été lire les petites lettres de l'accord. J'étais lire le communiqué d'annonce signé par la Commission lors de sa promulgation. Faut peut-être rappeler que le premier État qui a signé un accord de ce type-là était justement la République démocratique du Congo d'Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, et qu'à demi-mot entre les lignes de cet accord avec le Rwandais, on sent qu'aussi qu'il y a une espèce d'effet de contrainte par rapport au fait que un effet d'annonce, un engagement qui est attendu de la part du Rwanda pour que justement les filières et les chaînes de valeur soient respectées. On sait, c'est un enjeu fondamental pour que la transition énergétique et économique qui soit opérée en Europe le soit sur des bases justes, saines et dignes pour toutes les parties prenantes. Et donc on sent aussi que c'est un appel du pied au Rwanda en disant, à partir de maintenant, les dispositifs de suivi sont mis en place pour que la traçabilité soit garantie. Donc on sait à l'avance, par exemple, que le Rwanda ne produit pas d'or et que l'or est un métal intraçable par définition. Ce n'est pas le cas des autres minerais qui tombent sous le coup de cette directive. Donc on ne peut pas exclure que ce soit un instrument qui engage davantage le Rwanda plus qu'un boulevard qu'on lui ouvre. C'est en tout cas l'espoir que je nourris.
D'accord. Mais c'est peut-être un peu de la réelle politique, parce qu'on pourrait dire aussi... enfin, je peux comprendre les Congolais qui disent le Rwanda ne produit pas... Enfin, on ne trouve pas ces minerais au Rwanda. Or, vous, Union européenne, vous faites un accord avec le Rwanda, donc vous partez sur base du fait que c'est normal que le Rwanda...
Prennent
ces minerais, ou que ces minerais doivent être acheminés par le Rwanda. Donc, il n'y a pas non plus une remise en question. Et pourquoi est-ce que ces minerais sont acheminés vers le Rwanda? Parce que des groupes armés qui sont proches du régime rwandais occupent aussi ces territoires. Donc voilà, on peut dire, effectivement, je trouve que c'est intéressant, et dans cet accord, il y a des clauses pour assurer une bonne traçabilité et le fait que ces minerais soient produits dans de bonnes conditions. Mais fondamentalement, ça part sur la base du fait que le Rwanda va continuer à être un pays exportateur de minerais, alors que ces minerais n'existent pas dans son sous-sol. Et ça pose un peu question. De même que... Mais je m'avance peut-être.
Je vais dire, pour ces minerais, on peut aussi se poser la question des personnes qui vont les chercher dans les mines et dans, sous quelles conditions. C'est plus un sujet totalement inconnu. On a vu des documentaires et des images d'enfants, de femmes et d'hommes en mauvaises conditions qui descendent dans des mines qu'on n'aurait pas osé imaginer chez nous quand on avait des mines en activité. Est-ce que... dans le sens qu'on dit, enfin, de ce que je disais tout à l'heure, l'Union européenne s'en rend complice. Est-ce qu'on se rend aussi complice de ces mines insalubres, pour ne pas dire autre chose?
C'est complexe. Hein. J'ai eu la chance de fouler quelques-unes de ces mines, moi, au sud Kivu, justement. On est plutôt dans la région de Bukavu qu'on évoquait. Il y a beaucoup de ces mines qui sont devenues un refuge. On vit plus dignement quand on est congolais et qu'on n'habite pas à la ville, qu'on a une activité génératrice de revenus, en creusant, en pilant des pierres, en étant cette espèce de maillon d'une longue chaîne qui se termine en effet jusque derrière nos écrans, qu'avec une activité économique plus traditionnelle qui risque d'être balayée parce qu'on sait que le contexte économique il n'est pas évident là-bas non plus. On peut pas négliger aussi qu'il y a une bonne partie de l'activité extractive là-bas qui est dans les mains aussi de grands consortiums, et on parle de mines à ciel ouvert qui sont gigantesques et qui vont chercher des minéraux stratégiques. Donc qui sommes-nous pour reprocher à ces familles de se jeter sur, entre guillemets, cette aubaine qui est là, dont c'est un scandale géologique. Donc, à certains égards, on se plie, on ramasse de l'or comme on en ramasse, ou de l'or ou d'autres valeurs comme on ne les trouve pas ailleurs. Et nous, avec notre soif de métaux rares et notre soif de transition, finalement, on est juste en train de créer la demande qui génère l'offre.
Oui, je crois qu'on est complice dans la mesure où ces activités dans lesquelles la population va se jeter un petit peu. Je suis pas sûr qu'ils vivent nécessairement dignement parce que les conditions de travail sont très dures. Même dans les entreprises effectivement à ciel ouvert qui sont des grands consortiums, l'exploitation minière se fait d'une autre façon que les mines artisanales qui sont extrêmement dangereuses mais qui ont un impact grave sur l'environnement, avec la pollution de l'eau. Et la pollution de l'eau, c'est la pollution de l'eau de toute l'Afrique centrale, parce que tous les fleuves et tous les cours d'eau se jettent finalement dans le grand fleuve Congo, et donc ça peut avoir un impact sur la biodiversité dans le fleuve, mais ça a aussi un impact sur l'agriculture paysanne. En fait, ce dont a besoin une population, c'est de pouvoir subvenir elle-même à ses propres besoins. Et quels sont ses premiers besoins? Ce sont des besoins de vivre, hein, c'est de la culture vivrière, pas de la culture pour l'exportation. Ici, une population d'un pays pauvre qu'on fait travailler pour l'exportation va continuer à rester pauvre d'un certain côté. Investir davantage dans l'agriculture paysanne, et même si nous on a envie que ces terres soient creusées parce qu'on en a besoin pour nos smartphones, parce qu'on en a besoin pour la transition numérique, etc., pour le numérique qui prend toute la place, mais il faut se rendre compte qu'effectivement, au bout du compte, c'est au détriment de la population qui vit sur cette terre et qui pourrait très bien cultiver cette terre parce que ces terres sont aussi très riches pour la culture. Hein. Or, nous, on a choisi d'aller chercher le sous-sol, ce qui empêche la culture, sinon à devoir aller déforester, ce qui a aussi d'autres impacts au niveau des enjeux climatiques et des enjeux environnementaux. Et tout est lié, comme dit le pape François.
Alors, ça, c'est ce qui se passe à l'est du pays, mais c'est pas le seul conflit. Enfin, la République du Congo, démocratique du Congo, est un très, très grand pays. C'est pas le seul conflit qu'il y a dans le pays, Gilles.
Non, pour le moment, s'il y a un motif de préoccupation plus à l'ouest, c'est la situation de la province du Maïdombé. Donc c'est très peu méconnu, mais ça a fait l'objet d'un plaidoyer qu'on a mené la semaine dernière en présence de l'abbé Edouard Makimba, qui est le nouveau directeur de la Caritas Congo. Donc il y a un conflit à l'origine foncier, coutumier, qui a pris des proportions assez inédites, qui ressemble assez fort à finalement ce qu'on a connu avec la crise du Kasaï en 2018-2019, avec des... On a environ maintenant 400 000 personnes qui sont dans le grand bassin de Kinshasa qui sont déplacées, 2 millions de personnes qui sont infectées, une partie de la population qui est coupée du monde et prise en tenaille entre une milice et l'armée régulière congolaise. Et Caritas est une des rares organisations à pouvoir intervenir là-bas dans des conditions très difficiles, à défaut d'accès, dans une région finalement où, à la différence de l'Est, où depuis 30 ans, c'est difficile de circuler un endroit sans croiser une Jeep d'humanitaire. Là, en l'occurrence, la présence humanitaire n'est pas là, la connaissance des principes. Simplement, une femme qui se fasse violer n'a pas la possibilité de pouvoir aller se faire soigner dans les délais, puis simplement signaler qu'elle a été victime de violences basées sur le genre. Et donc, on est un petit peu pris au dépourvu et surpris par l'ampleur que prend cette situation à la frontière de Kinshasa. Donc ça, c'est un peu... Non, c'est pas un peu. C'est vraiment un motif de préoccupation et un endroit qu'on veut mettre sur la carte pour le moment. Une crise dans la crise, une de plus.
C'est un conflit dont vous aviez conscience, Christophe ?
Eh bien, presque pas. Pourtant, je m'intéresse beaucoup à la RDC, mais effectivement, les premières nouvelles que j'en ai eues, c'est sur un article sur la nouvelle première ministre de la République démocratique du Congo, qui vient d'être nommée par Félix Tshisekedi, où on disait qu'elle venait précisément du Bas-Congo. Et qui est une région, je pense que c'est dans cette région-là, le Maïndombe, je pense que c'est une partie du Bas-Congo. Et voilà, c'est dans le cadre de cet article que j'ai entendu qu'il y avait une crise humanitaire qui était en cours là-bas et dont j'ignorais tout.
Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, on a parlé des problèmes, mais c'est toujours bien d'apporter des solutions. Donc j'aimerais savoir, pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ne serait-ce qu'à notre échelle, pour agir et pousser les choses dans le bon sens, que ce soit pour l'Est ou l'Ouest du pays ?
Ben, refuser l'indifférence, hein, c'est comme ça qu'on commence à accepter cette information, tenir nos gouvernements responsables aussi. La Belgique, sans vouloir retomber dans les travers du paternalisme d'antan, encore une voix légitime et une connaissance de ce qui se passe là-bas et une influence en tant que, par exemple, présidente de l'Union européenne pour le moment, pour essayer de tenir les responsables et de mettre en place des cadres qui doivent permettre justement de mettre un terme à ces conflits, de faire en sorte que les droits humains soient la boussole avec laquelle on essaie d'apporter une réponse tant à ces crises urgentes à l'Est comme à l'Ouest, mais aussi finalement ce qui fait le mal développement de ce grand pays qui, on vient de le dire, a tous les moyens justement de se développer dignement et dans la durée.
Je dirais à notre niveau, nous comme citoyens, c'est vrai qu'on se sent peut-être un petit peu dépassé par ce qui se passe là-bas, comme le disait Gilles et comme le fait la Caritas, tout le travail de plaidoyer qui est fait auprès des instances politiques est très important, mais comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a des racines économiques, il y a les racines de notre consommation, et donc notamment par rapport à tout ce qui est numérique, je pense que c'est un enjeu à la fois écologique, mais on le voit, c'est aussi un enjeu de paix, et que c'est très important aussi de réfléchir à l'usage que nous faisons du numérique, notamment est-ce que je dois renouveler, par exemple, mon smartphone tous les ans, dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, comment est-ce que je suis conscient qu'on peut remplacer parfois certaines pièces, etc. L'empreinte carbone et l'empreinte environnementale de nos smartphones, c'est surtout la fabrication, et donc... c'est très, plus que la consommation, hein, il faut aussi être attentif à la consommation, mais l'empreinte de la fabrication de ces appareils est énorme. Et donc c'est très important aussi de veiller à recycler le plus possible, enfin à recycler, à renouveler et éviter de remplacer tant que ça marche bien et pas besoin parfois de Rolls-Royce alors qu'on a besoin d'une deux chevaux simplement en matière de smartphone.
J'allais dire, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui roulent encore en deux chevaux aujourd'hui. Merci pour ces conseils. Je vous propose de faire une petite pause en musique. Et cette fois-ci, on va écouter Tina Arena avec Aller plus haut. Et puis, on se retrouve pour vos Zooms.
Sous des héros, des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas des danses me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes, j'ai voulu tracer mon chemin. Pour aller plus haut, aller plus haut. raisons pour lesquelles je vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime, ou seulement te garder.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Et c'est déjà la dernière partie de ce décryptage. Il est temps pour nous de passer au zoom de nos décrypteurs, Gene Le Carte et Christophe Renders. Qui veut commencer ?
Je veux bien, Armelle, parce que je vous avais promis une boîte à outils un peu spéciale. Et pour cause, elle fait un lien assez audacieux avec le premier sujet de ce rendez-vous, parce que vous connaissez la chanson, Armelle. C'était une fête de famille, vous discutez avec vos voisins, vos amis, et soudain, la conversation prend un tour un peu nauséabond. On verse subitement dans le racisme ordinaire, le sempiternel refrain de « c'est la faute aux migrants et aux réfugiés ». Alors vous cachez maladroitement votre sourire, comme là maintenant à l'instant, votre grimace même. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais en général, jusque-là, vous aviez deux options. Hein. Peut-être vous préférez changer de sujet, parce qu'on ne sait pas toujours comment gérer une situation qui est un petit peu malaisante, ou parce que vous êtes surpris de tels propos émanant de quelqu'un qui semblait jusque-là tout à fait respectable, et que vous n'avez peut-être pas l'argument qu'il faut, tout simplement. Et la deuxième option, c'est l'inverse, en fait. Vous ressentez, au contraire, un irrépressible besoin de faire entendre raison à votre interlocuteur. Vous lancez avec passion dans une argumentation, et patatras, le ton monte et tout le monde ressort perdant. Caritas International vous propose depuis peu une troisième option, sous la forme d'un petit guide intitulé « Comment réagir aux questions et remarques difficiles sur les personnes en exil ». C'est un petit guide gratuit et disponible sur notre site www.caritasinternational.be. Il a été pensé initialement pour nos volontaires qui n'échappent pas à ces discussions difficiles, et on se rend compte qu'il est bien utile à chacun, même quand on est, comme beaucoup de collègues ou de sympathisants de Caritas, tous les jours en chemin avec les personnes migrantes et réfugiées, avec les victimes de crise et de pauvreté. Alors, on a beau y être au quotidien, on éprouve encore parfois des difficultés à parler des personnes, à parler de ces personnes auprès de nos amis qui ont des questions, nos connaissances ou nos familles parfois. Il y a un constat, en fait, la migration, qu'on le veuille ou non, on y est, on y sera encore confronté, et ça reste parfois un sujet délicat, avec des opinions qui sont parfois très éloignées les unes des autres, ça polarise. Et notre intention, c'est de rompre un petit peu avec ces discussions animées. Alors ce petit guide, il est de bons conseils utiles, on l'espère, vous me direz. Il est nourri par la pratique aussi, il est question d'arguments, d'empathie, d'écoute. Je vous laisse le découvrir, mais il est surtout soutenu par notre conviction qu'il faut nouer le dialogue avec les bonnes nuances et puis oser la rencontre.
Merci Gilles donc pour cette boîte à outils qu'on retrouve sur votre site. Et vous Christophe, vous vouliez nous parler de bien commun.
Politique du bien commun exactement, politique avec un S. Car il s'agit d'un cycle de conférences préélectorales que le Centre AVEC organise dans les semaines qui viennent, déjà dès la semaine prochaine. Le concept, c'est à partir d'une thématique, nous invitons un ou deux experts pour présenter la thématique, pour présenter les enjeux de la thématique pour la prochaine législature. Et ensuite, nous laissons la parole à deux ou trois candidats politiques qui vont être invités à présenter leur vision aussi par rapport à cette question, et avec la possibilité d'un échange. Voilà, on veut vraiment faire ça sous une forme différente des débats contradictoires habituels dans le monde politique. On voudrait permettre à ce qu'il y ait un échange sincère vraiment entre les candidats, pas nécessairement de l'affrontement, mais aussi d'essayer de faire de la co-construction. Et donc ça commence le jeudi prochain, le 10 avril, ou mercredi prochain, excusez-moi. En tout cas, c'est le 10 avril.
C'est un mercredi, me semble.
Voilà, le 10 avril, autour de, justement, pour revenir au sujet de l'émission, comment lutter contre les idées d'extrême droite. La deuxième, ce sera le 17 avril, sur quelle politique pour prendre soin des communs. Les communs, c'est voilà, tout ce qui peut être géré ensemble. La troisième, ce sera sur les migrations, et la quatrième sur la fiscalité. Voilà, et tout ça a lieu au Forum Saint-Michel, boulevard Saint-Michel 24. Toutes les informations sont disponibles sur notre site centreavec.be.
Merci Christophe. Donc on renvoie nos auditeurs vers le site du Centre Avec et le site de Caritas également. Et il est déjà temps pour nous de retrouver Pierre Granier, secrétaire de rédaction pour le journal Dimanche. Pierre, vous venez nous en présenter le contenu. Dites-nous ce que peuvent lire nos auditeurs cette semaine.
Bonjour Armelle et bonjour à tous. Cette semaine dans Dimanche, c'est une figure importante de l'Église, le cardinal Fridolin Ambongo, qui nous accorde une interview. L'archevêque de Kinshasa, que certains voient déjà devenir le premier pape africain, était récemment à Bruxelles et nous avons donc profité de sa présence pour évoquer avec lui la situation politique et religieuse en République démocratique du Congo. Ainsi, au sujet des élections de décembre dernier qui ont reconduit le président Tshisekedi au pouvoir, Monseigneur Ambongo parle de désastre. Concernant la guerre dans l'est du Congo, avec son lot de massacres et ses millions de personnes déplacées, il pense qu'elle n'est pourtant pas une fatalité. C'est la volonté politique qui manque actuellement, dit-il. Et de s'étonner au passage que, dans un tel contexte, l'Union européenne ait signé un accord de collaboration avec le Rwanda autour des minerais qui sont extraits au Congo. Lors de ce grand entretien, l'archevêque de Kinshasa est aussi revenu sur d'autres préoccupations telles que le fondamentalisme islamiste qui commence à se manifester ou la multiplication des églises de réveil. Il nous parle également du christianisme en Afrique que le pape Benoît XVI avait qualifié de « poumon spirituel de l'humanité » ainsi que du synode sur la synodalité. Tous ces propos ont été recueillis par Christophe Ehrings et sont à lire en page 2. Et 3. On part maintenant à la recherche de l'identité belge. Dans un peu plus de 2 mois, ce seront les élections en Belgique et avec elles, le retour des questions existentielles pour notre pays. Dans un livre qui vient de sortir, le journaliste François-Jeanne Doté se demande ce qui unit nord et sud du pays. Les avancées sociétales, estime l'auteur, qui, pour trouver l'authentique âme belge, se tourne du côté de la folle ambiance du bal national dans le quartier populaire des Marolles à Bruxelles. Mais le journaliste fait aussi le pari de la jeunesse qui n'a jamais vécu dans une Belgique unitaire. Les jeunes sont peut-être davantage proches de l'autre communauté que ne l'ont jamais été les générations précédentes, écrit-il. Article signé Vincent Delcor et à lire en page 5. Direction l'Équateur maintenant, et plus précisément la ville de Guayaquil, dans le quartier de Socio Vivienda. Un quartier où les gangs font la loi dans un pays qui a sombré tout entier dans la violence liée au narcotrafic. C'est dans cet environnement hostile que vit le père Lénine Alvarado, arrivé en 2017. Il a vite compris que son rôle allait dépasser sa mission apostolique. « Mes amis pensent parfois que l'on m'a envoyé ici pour me punir », s'amuse à dire ce jeune prêtre qui mise sur la solidarité pour reconstruire le tissu social de la communauté. Un reportage de William Gazzo à lire en pages 8 et 9. Et pour terminer ce tour d'horizon de Dimanche, je vous propose cette réflexion sur la foi. Elle n'est plus à la mode, certes, voire même considérée comme une attitude infantile, comme une étape passagère sur le chemin de la maturité, constaté récemment le canoniste Rick Torfs dans les colonnes de la Libre Belgique. Oui, mais en christianisme, contrairement à d'autres courants religieux, elle est pourtant considérée comme une dimension essentielle et permanente de la vie spirituelle. Il faut donc croire pour voir. Christophe Ehrings nous explique cela en page 10. Voilà, bon week-end de lecture avec Dimanche.
Merci Pierre, et puis merci aussi à vous d'être venus, Christophe et Gilles.
Avec plaisir.
Merci Armelle, à bientôt.
Et je rappelle à nos auditeurs donc, que cette émission est disponible en podcast sur rcf.fr et katobel.be. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de décryptage.